Il est 18h à Niamey, tout de suite le journal en français du studio Kalangou au micro Michel Deji. Les titres de cette édition, les fidèles musulmans qui ont les moyens ont un délai de 3 jours à partir d'hier pour accomplir le sacrifice de la fête de Tabaski. Vous suivrez dans ce journal les explications de l'imam de la grande mosquée de Niamey, Cheikh Jibril Soumaïl Karanta. 24 heures après la fête de l'Aïd el-Kébir, un nombre important de béliers invendus sont visibles dans la ville de Niamey. Le président du syndicat des commerçants, vendeurs et importateurs de bétail de la région de Niamey fera le point dans cette édition. Et puis en partie magazine, nous irons à la rencontre du jeune écrivain nigérien Amadou Bashirou, dit écrivain noir. Il nous fera découvrir son dernier ouvrage, La vie en polygamie, un livre qui parle de la polygamie dans la société nigérienne. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Cela dit, la Oumma islamique du Niger a célébré hier l'Aïd al-Adha ou fête de Tabaski, une fête au cours de laquelle il est recommandé aux fidèles musulmans de sacrifier un animal. Ce sacrifice peut être accompli 3 jours après la fête, comme l'explique l'imam de la grande mosquée de Niamey et président de l'Association islamique du Niger, Cheikh Jibril Soumaïl Karanta. On l'écoute au micro de Studio Kalangou.
Ce que l'islam recommande, c'est de sacrifier son animal juste après que l'imam ait égorgé le sien. Tout celui qui n'a pas pu le faire pendant la journée d'hier peut le faire aujourd'hui et demain qui correspond au 3e jour, et il aura réussi son sacrifice de la tabaski. Mais après ces 3 jours, c'est fini. Et les personnes qui manquent de moyens doivent surtout comprendre que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a égorgé 2 moutons. Le premier, il l'a fait pour lui-même et les autres membres de sa famille. Et le second, en l'égorgeant, il a dit que c'est pour les pauvres de sa communauté. Et donc, jusqu'à la fin du monde, tout musulman qui manque de moyens, le prophète a accompli ce sacrifice pour lui et il peut continuer à pratiquer sa religion sans aucun problème.
Dans le cadre de cette célébration de la fête de Tabaski, l'ambassadeur des USA au Niger est allé présenter ce matin au nom du gouvernement américain les vœux de l'Aïd el-Adha au président de l'Association islamique du Niger, Cheikh Jibril Soumaïl Karanta, et à tous les musulmans du Niger. Je vous propose de suivre un extrait du message lu par le diplomate américain au Niger, Eric Whitaker, à cette occasion.
Le Tabaski est un moment de réflexion et de prière où le musulman du monde entier, y compris les 3 millions de musulmans pratiquants aux États-Unis, se réunissent dans un esprit de paix et de compassion avec leurs familles et leurs amis. Nous croyons que la foi joue un rôle essentiel dans chaque société. Comme nous l'avons discuté l'an dernier, nous savons qu'il n'y a pas de place pour le terrorisme dans l'islam. Lorsque les États-Unis travaillent avec le Niger pour former et équiper la force de défense et de sécurité, nous le faisons pour aider le Niger pour faire face aux menaces impies de ces terroristes sans foi ni loi. La liberté de religion est un droit humain attendu, universel et profond que les États-Unis soutiennent à l'échelle mondiale. En poursuivant l'esprit de dialogue interreligieux, nous espérons que cette journée de Tabaski vous apportera à vous et à votre famille ainsi qu'à votre communauté la joie, la prospérité et la paix.
Au lendemain de la fête de Tabaski, plusieurs moutons n'ont pas trouvé d'acquéreur à Niamey. Certains vendeurs venus de l'intérieur du pays et de l'étranger ont commencé à retourner avec leurs animaux, explique le président du syndicat des commerçants, vendeurs et importateurs de bétail de la région de Niamey. Oumoura Amadou est joint au téléphone par le studio Kalangou.
Cette année, ça n'a pas marché comme nous voulons, étant donné qu'il y a beaucoup d'animaux et puis on dit que les gens n'ont pas eu de salaire. Et le second aussi, il y a des gens vraiment qui ne sont pas des commerçants de bétail, mais tant que le moment arrive, ils vont prendre leur argent pour entrer en bourse pour payer des animaux. Si ce ville-là, c'est pas normal. Presque les gens de Filinger et Tilaberi sont retenus avec leur bétail. Hein. Il y a plusieurs gens qui ont vendu à perte, surtout les moutons rouges qui viennent du Mali. Là. Depuis hier, ils ont commencé à retenir. Même aujourd'hui, les camions sont en train de charger pour les amener à la maison. Parce que maintenant, les éleveurs aussi, ils ont l'idée que vraiment, même s'ils n'ont pas pu vendre leurs animaux au mois de la fête, après la fête, ils vont écouler ça. Bon, tu peux avoir le prix de la fête, c'est pas possible. La fête a déjà passé.
Depuis les attaques de 2020 contre la localité d'Inates, région de Tillabéri, la mairie s'est délocalisée à Ayérou. Selon le maire, les principaux responsables de la municipalité vivent à Ayérou, ainsi que 15 000 déplacés de sa commune. Des tractations sont en cours, selon lui, pour le retour de l'administration et de la population à Inates. Il est au micro de Habibou Gaba.
Il faut tout reprendre à Inates. Même le siège de la mairie, même les magasins, tout. Il faut tout reprendre parce que même les châteaux qui ont été réalisés tout récemment par la HACP ont été détruits. Tous les forages sont en panne. Les classes, on n'en parle pas. Avant, la mairie même a été dispersée. Chacun se cherche. Mais maintenant, nous avons pris un local à Ayérou où vous pouvez trouver tout le staff de la mairie. Le maire, le vice-maire, le SG, le responsable de l'état civil. En tout cas, chaque matin, les gens savent là où les trouver à Ayérou. Nous sommes tous à Ayérou et nous travaillons là-bas et nous avons à peu près 15 000 déplacés dans la zone. Et les autres aussi, ceux qui ne sont pas tellement pris en otage, viennent parfois avec leurs problèmes et ils trouvent tout le monde.
Depuis la découverte de l'or et son extraction de façon artisanale dans la commune de Tabelo, région d'Agadez, cette commune connaît l'arrivée massive de migrants. Si cette activité génère beaucoup de ressources pour la population, il n'en demeure pas moins que de nouvelles attitudes et comportements ont vu le jour, selon Hadatan Amada, responsable de l'état civil de la migration et des réfugiés de Tabelo. On l'écoute au micro de Mousse Maman.
Nous avons vraiment ces sortes de migrants, les saisonniers, là, ceux qui viennent pour faire la récolte des loyers et autres. Nous avons 11 600 migrants dans la commune. La majorité, c'est les Nigériens. Les internationaux aussi. Nous avons les Nigériens, les Maliens, les Ivoiriens qui ne sont pas nombrés. Mais les gens, là, ils ne restent pas ici. Ceux que vous allez voir ici, au niveau du chef de la commune, ce sont des Tchadiens, les Soudanais, les Nigériens et quelques Maliens. Les conséquences sont multiples. Nous, ici, au niveau des Tabelotes, nous ne connaissons pas la prostitution. Donc, on peut dire que c'est la dégradation des mers. Il y a la dégradation aussi de l'environnement. Des habitudes que nous ne connaissons pas. On peut dire aussi qu'il y a des avantages aussi. Si nous prenons l'exemple de nos jeunes, ils ont eu de la formation. Par exemple, avant, ils ne connaissent pas l'or. Ils ne sont que des travailleurs. Mais aujourd'hui, vous allez voir nos jeunes en train de faire le travail, l'artisanat sur l'or-là. Par exemple, la location. Si tu es à ta maison, tu auras une bonne location. Ce sont toujours les migrants-là. La main-d'œuvre aussi, elle est là. Dès que tu as un petit travail, tu cherches quelqu'un, il va te le faire.
Au Niger, à chaque début ou souvent pendant la saison pluvieuse, l'on constate des vents violents accompagnés de poussière. Selon les spécialistes, ce phénomène menace notre écosystème et l'une des solutions pour remédier à cela, c'est de planter des arbres, explique Dr Moussa Souley, expert en changement climatique et gestion des terres. Il est interrogé par le studio Kalungu.
Le système de pluie qu'on a, c'est un système de pluie qui est violent. Pourquoi il vient avec ça? Il y a un vent qui vient du Sahara, ça c'est vers le Tivesti. Il y a l'autre qui vient vers le Nord, Libye et autres là. Maintenant, c'est le vent qui se déplace. Quand ça passe par nous, ça continue. Et ce qui fait que quand il n'y a pas de numérail d'arbres, il va de soi que quand la pluie commence à une échelle locale, le vent violent, il peut ramasser la poussière et les amener dans le ville. Même la ceinture verte qu'on a à Niamey, quand vous regardez, les gens sont en train de couper, d'autres l'ont vendu, d'autres sont en train de construire. Et tout ça, ça réduit la capacité qu'on a en termes de murs forestiers pour réduire ces vents violents. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on se protège? D'abord, il faut faire des murs forestiers, il faut planter des arbres. Parce que les arbres peuvent anéantir ces vents violents. Si on a une végétation qui est assez dense, elle peut toutefois réduire la quantité et réduire aussi la vitesse. Avant que ça atteigne Niamey, vous allez voir qu'il n'y a rien. Et dans les villes aussi, il faut continuer à planter les arbres, surtout dans les maisons et autres là. Tout ce qui est les intempéries climatiques, l'arbre c'est la solution.
L'université d'Andiko dans Kolodo de Maradi a un nouveau recteur élu le 17 juillet. Dr Maman Sani s'est fixé 3 objectifs pour le bien de la communauté universitaire. On peut citer la gouvernance de l'institution et la résorption du retard académique que connaît l'université. On l'écoute au micro de Mohamed Maman.
Notre premier objectif, c'est d'améliorer notre gouvernance universitaire et aussi d'asseoir des services de qualité, non seulement pour les étudiants et toute la communauté universitaire. Et aussi d'essayer donc de faire du mieux pour résorber les retards académiques. C'est un avantage qu'un recteur soit de cette université, parce qu'un adage, comme on le dit, pour connaître l'état de développement d'une société, il faut être dans ses cellules. Et donc, je pense que si les moyens sont disponibles, avec la volonté, la détermination, donc, nous pouvons atteindre donc, les objectifs qui sont donc c'est de développer cette université. Le problème d'infrastructure, effectivement, nous allons essayer donc, de mener des offensives auprès du gouvernement afin qu'ils prennent des dispositions pour essayer d'équiper nos universités du minimum d'infrastructures.
La fête de Bianou, ou fête culturelle et religieuse de la région d'Agadez, se tiendra au mois d'août prochain et aura un cachet particulier cette année selon le sultan de l'Aïr. Un comité est déjà mis en place et plusieurs innovations seront apportées, comme l'explique ici Sa Majesté El Hadj Omar Ibrahim Oumogou. Il est au micro de Moussou Maman.
Un comité a été mis en place pour une rénovation. C'est une invitation qui va être adressée aux ressortissants de la région d'Agadez qui sont un peu partout au Niger et même les autorités nationales et les ONG et projets qui seront invités vraiment pour cette fête de Bianou qui sera unique. Unique parce que elle aura toute sa splendeur et sera revue. C'est un Bianou authentique qui va être organisé cette année. C'est pour cela qu'on appelle ça une rénovation. Vraiment, notre appel, c'est le ministère de la Culture surtout, et qui doit être aux côtés du comité et du Bianou, parce que le Bianou maintenant dépasse les frontières d'Agadez, c'est devenu vraiment une fierté nationale. Vraiment, pour que le ministère aussi s'implique vraiment dans cette rénovation du Bianou édition 2021.
De Filingué à Agadez,
de Tawa à Maradi et à Zander,
suivez le programme du Studio Kalangou sur votre radio. Studio Kalangou, au rythme du Niger.
Parti Magazine à présent, La vie en polygamie, c'est le titre d'un nouveau livre écrit par un jeune écrivain nigérien, Amadou Bashirou, plus connu sous son nom de plume écrivain noir. Il s'agit d'un essai à travers lequel l'auteur se prononce notamment sur les avantages et les inconvénients de la polygamie dans la société nigérienne. Amadou Bashirou présente son livre La vie en polygamie au micro de Studio Kalangou.
La polygamie dans le Sahel, c'est notre quotidien. Donc, il y a beaucoup de problèmes dans la polygamie que j'ai voulu soulever. Et moi-même, étant ici d'une famille polygame, j'ai jugé utile d'écrire sur les avantages et les inconvénients de la polygamie. Parce que ce sont les inconvénients qui sont fréquents. En polygamie, il y a vraiment d'injustice, il y a des conflits familiaux, les membres ne s'entendent pas. Il y a aussi ce problème de manque de terres, parce que quand il y a beaucoup d'enfants, il y a des manques de terres. Il y a aussi cette jalousie entre les coépouses. Vous voyez, les coépouses ne s'entendent pas, donc ils s'envoûtent et ils envoûtent aussi les enfants de leur coépouse. Donc il y a trop de problèmes dans la polygamie. Maintenant, pour les avantages, il y a l'élargissement de la famille. Il y aura trop des enfants. Et si vraiment cette polygamie réussit, c'est avantageux parce que si les enfants réussissent leur vie, là vraiment c'est important.
Donc vous conseillez ou vous déconseillez cette pratique en écrivant votre livre?
Vu l'image, beaucoup pensent que je critique la polygamie. Or, ce n'est pas du tout ça. Mais je critique la polygamie anarchique. Donc, la polygamie dans le désordre. Quand vous n'avez pas les moyens, il ne faut pas se lancer dans cette affaire parce que c'est difficile à gérer des familles sans moyens. Parce que dans une famille polygamie anarchique, quand les parents n'ont pas de moyens pour gérer la famille, les enfants sont contraints au vagabondage. Donc, ils deviennent des enfants de la rue. Donc, ils sont obligés d'aller quémander pour pouvoir se nourrir. Donc, c'est de la délinquance. Et quand ce sont des jeunes filles, vous voyez, quand il n'y a pas de moyens, ils sont obligés de se vendre pour pouvoir se nourrir. Et ça, ce n'est pas important. Moi, je conseille vraiment à mes lecteurs à tirer les leçons sur ce phénomène qui prend vraiment du terrain. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, vous voyez, la polygamie, c'est pêle-mêle. Les gens se marient non pas pour le bien-être, mais par simple plaisir. Donc, c'est mon appel à l'endroit, en tout cas, de tout ceux-là qui se lancent dans cette affaire de polygamie, il faut avoir les moyens et il faut être aussi honnête. Il faut être juste, savoir bien gérer, il faut se comporter en très bon père de famille. Donc voilà mes conseils, voilà mon appel.
Et Et c'est ici que se referme ce journal en français de Studio Kalangu. Merci de l'avoir suivi. Ne quittez pas tout de suite le forum du Studio Kalangu dans une présentation de Mustapha Mamansani. Le thème du jour, c'est les enjeux socio-économiques du commerce des hydrocarbures dans la région de Zander. Bonne réception et au revoir.